Et nous revoilà avec François donc pour une revue de DC New phase 2, on va le dire comme ça.
Ouais.
Ouais, ça me semble être une bonne appellation. Donc, que dire de cette seconde phase du DC New ? Eh bien, qu'il y a des titres qui s'arrêtent, des titres qui commencent. Autant ça semble être vraiment préparé sur les titres qui commencent, autant sur ceux qui s'arrêtent, ça a l'air d'être moins préparé.
Je pense qu'ils attendaient les résultats de vente, etc., pour savoir qui allait s'arrêter.
Il y a des titres qui étaient forcément exempts de tout risque d'annulation, Justice League, Action Comics, Batman, enfin tous les titres historiques.
Ouais. Et si cela s'arrêtait, on était vraiment dans une bérésina.
Donc après, je pense qu'ils avaient un pool de 20 titres qui savaient devoir arrêter à un certain moment, avant la première année.
Ouais.
Et donc, le choix qui a été fait n'est pas... Enfin, je trouve est un peu étrange, mais pourquoi pas. Faut voir enfin, par rapport aux résultats de vente, aux progressions de certains titres, etc.
Ils ont arrêté 6 des 7 moins bonnes ventes.
Oui.
Donc c'est un arrêt qui est purement mathématique.
Après, il y a des titres qui avaient quand même une progression régulière sur les 3 premiers mois qui était non négligeable. Par exemple, au Mac, qui a commencé très très bas et qui a commencé à remonter les échelons au fur et à mesure.
Bon. Alors, Omac n'a pas remonté en termes de vente, il a remonté dans le classement parce que les autres ont descendu plus que lui.
Oui, c'est voilà. Vrai.
Il n'a pas vendu plus que le numéro 1.
Voilà, il a descendu moins vite.
Mais c'est vrai que c'était en plus un titre qui bénéficiait d'un bon aspect critique. Il s'arrête au numéro 8 qui est prévu comme un crossover.
Ça fait encore partie du crossover avec Frankenstein ?
Eh bien, je crois. Non ?
Parce que ça commence ce mois-ci, donc ce mois-ci on est dans le mois 5.
Ah,
donc
c'est... ah non, c'est peut-être... oui, mais je croyais qu'il était plus tard que ça, le crossover.
Non, je crois que c'est ce mois-ci qu'il
commence.
Bon,
alors, en tout cas, donc, ce titre-là s'arrête. Je pense qu'on va peut-être commencer déjà par ceux qui commencent, parce qu'en fin de compte, ça explique des choses sur ce qui va s'arrêter ensuite.
C'est vrai, pour certains titres, effectivement,
alors,
qui à mon avis étaient presque prévus comme des mini.
Enfin, on y reviendra. Déjà, sur les 6 titres qui sont annoncés, il y en a déjà 2 dont on savait qu'ils allaient exister depuis un certain temps.
Ben, donc la JSA.
Alors, JSA qui finalement s'appelle Earth 2. Et qui donc avait déjà été annoncé avec James Robinson et Nicolas Scott. Donc voilà, on nous avait vendu la mèche depuis longtemps, parce que déjà on nous avait dit non, la JSA reviendra à un moment, donc ça on le savait. On savait que ce serait par Nicolas Scott, parce qu'il a fallu comme dire qu'on mettait des femmes quelque part. Parce que oui, Nicolas est une femme.
Oui, mais alors... Oui, je sais pas pourquoi ils ont tardé à le sortir. Peut-être que Robinson n'était pas prêt, parce que Scott a quand même fait fill-in en attendant.
À mon avis, ils ont tardé à le sortir pour une raison simple, c'est qu'ils voulaient que les 52 titres se passent sur la même Terre au départ.
Oui.
Et que Earth 2, comme son nom l'indique, se passe sur la Terre 2.
Ici, ça me semble étrange de mettre une Terre 2, mais bon, pourquoi pas.
Alors, moi, ça me semble assez logique, puisque quand on y pense, ils veulent rajeunir l'univers DC.
Oui, s'ils veulent mettre une
Ils veulent faire quelque chose de contemporain, et c'est quand même très difficile d'expliquer à des gamins d'aujourd'hui que des gens qui étaient vivants pendant la Seconde Guerre mondiale continuent à jouer les super-héros.
C'est vrai.
Et surtout que les gamins d'aujourd'hui n'ont jamais connu leurs arrière-grands-parents qui ont vécu la guerre.
C'est pas faux.
Donc, par rapport à ça, c'est vrai que c'était déjà problématique dans les années 80 quand ils ont sorti Infinity Inc. et qui était déjà sur Terre 2 à l'époque. Après, quand ils commencent à monter dans un univers complet, prends notamment le cas de Stargirl qui s'appelait Star Spangled Kid à l'époque, où quand même son beau-père était adulte pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est vrai.
C'était en termes de logique pour expliquer ça. Ça peut donner une raison de faire une Terre 2.
Oui, mais alors moi je me pose la question aussi de savoir s'ils n'auraient pas pu faire une réactualisation comme ils le font par exemple très souvent avec Iron Man en choisissant une autre guerre. Alors c'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale a une autre portée, quelque chose de plus... Voilà.
Enfin, les super-héros sont apparus pour la première fois dans la guerre du Golfe. Ça le faisait moyennement.
Guerre du Vietnam.
Ouais, mais après, le problème, c'est qu'il faut aussi le réactualiser derrière et le réactualiser régulièrement. Ils ont quand même dans l'idée de ne pas refaire ça avant 20 ans.
Faut espérer, oui.
Voilà, donc je pense que c'est une raison assez logique. Alors, ce qui, par contre, en complément de ce titre, est plus surprenant, c'est qu'il y a un deuxième titre
oui.
qui est lié à celui-ci, qui va s'appeler World's Finest, qui est écrit par Paul Levitz, avec des dessins en alternance par Georges Pérez et Kevin Maguire.
Donc, c'est quand même un titre qui vise objectivement plutôt les lecteurs, je ne vais pas dire âgés, mais qui ont un background. C'est ouais. pas les nouveaux lecteurs qui sont arrivés avec le relaunch.
Alors, on sait déjà que ce sera le duo de World's Finest, c'est Huntress et Power Girl.
Mais pas celle qu'on a vue avant.
Si.
Si.
Si, c'est la Huntress, alors, Elena Bertinelli, toujours, donc sur la même identité, par contre, qui est bien sur Terre 2.
D'accord.
Et on nous a confirmé entre-temps que la mini-série Huntress qui était en cours, voilà. elle, est bien sur Terre 2 et que ça y fait suite.
D'accord.
C'est pourquoi Paul Levitz, d'ailleurs, réécrit la suite. Visiblement, cette mini-série Huntress a eu un succès conséquent pour qu'on donne une ongoing derrière. La question, c'est est-ce qu'ils vont alterner les deux dessinateurs par arc ou est-ce que ce serait un titre anthologique avec deux histoires dedans ?
Vu le titre, j'aurais plutôt un titre anthologique pour ma part.
En plus, ce serait tout à fait intéressant d'avoir du Pérez par exemple sur Huntress et du Maguire sur Power Girl.
Oui, enfin c'est... Non, mais moi je le vois vraiment comme un titre anthologique.
En plus, dans une logique où on veut lancer beaucoup de titres à 3,99€.
Oui, là ça justifie quoi.
Ça peut se justifier d'avoir effectivement un 30 pages avec deux histoires de 15.
Mmh.
Voilà. Ou une de 20, une de 10 en alternance comme il voulait faire sur Detective avec Batwoman et The Question.
Exact.
Voilà. Donc tout ça effectivement est du domaine du possible. On attend de voir ce que va donner cette Terre 2 donc qui va se répartir sur deux séries mensuelles. Jusque là on est plutôt bien avec les titres annoncés. Le troisième, on le connaît, c'est Batman Inc. qui revient.
Oui,
ça avait été annoncé qu'il reviendrait plus tard dans l'année.
Donc c'est une suite d'Ongoing qui était. Donc il le relaunch. Enfin bon, c'est. Voilà.
Oui. Donc pourquoi pas ? Moi là-dessus, je suis.
À la limite, moi je suis plutôt d'accord, puisque ça permet à Morrison de faire son truc et de laisser les autres tranquilles.
Oui.
Et comme je n'ai pas supporté son run à partir du moment où c'est Tony Daniel qui dessine, où il part dans tout son trip de Rip là. Ok, qu'il finisse son truc, si les gens aiment, très bien.
Voilà. Ce qui moi m'a un peu surpris, c'est que quand ils l'ont annoncé, je me suis dit d'emblée, ce titre succédera à Batwing.
Oui.
Et Batwing continue. Mais Batwing n'était pas dans les plus mauvaises ventes.
C'est vrai.
C'est pas dans les meilleures.
Clairement
c'est pas dans
pas.
Les plus mauvaises. Après, c'est un titre qui est joli.
Oui,
les critiques ne le descendent pas.
Non.
Et alors là, en plus, ils sont partis dans des guest stars à gogo pour essayer de relancer la machine.
Exactement.
Parce qu'on en est clairement là. Hein. Enfin, cette fois-ci, tout le Batmaniverse va être dans Batwing. Pour un Batman basé en Afrique, c'est étonnant de voir autant de monde.
Bah, on a l'impression que Gotham a été remis en Côte d'Ivoire. Quoi. Enfin bon, c'est sans vouloir paraître méchant ni. Voilà,
ni faire critique, un comme.
Ouais. Oui, ni critique. Ouais. C'est vrai que c'est étrange d'avoir voulu le localiser ici. Bon, très bien, c'est, au contraire, même, c'est plutôt pas mal. Mais bon, faire apparaître des guest stars qui sont de l'autre côté d'un océan à chaque numéro, c'est un peu. Pas très logique, quoi.
Ouais. Alors, on va passer ensuite à un autre titre qui est créé, qui s'appelle G.I. Combat.
Qui est en gros la suite de Men of War, si j'ai
bien. Qui s'arrête, oui, voilà, c'est clairement ça. Ils ont changé le titre, mais ils s'entêtent sur une anthologie de guerre. Et si ça peut permettre de relancer la machine comme ça, vu le nombre de titres de guerre mythiques qu'il y a chez DC à réutiliser...
Ils peuvent durer longtemps.
Ils peuvent durer longtemps, même s'ils les arrêtent au bout du numéro à chaque fois. Alors, bon, G.T. Krul au scénario sur la première partie avec Ariel Olivetti. Il y a des backups aussi qui sont prévus. Il y a Jimmy Palmiotti, Justin Gray et Dan Panossian sur Le Soldat Inconnu.
Ah, ça me fait envie pour le coup.
Voilà. Et on a également John Arcudi et Scott Collins pour The Hunted.
Alors, Arcudi sur une histoire de... C'est Hunted Tank, non ?
Alors là, ils ont mis The Hunted seulement.
Bon.
Est-ce que c'est le temps canté ? Est-ce que ça
chances.
Pourrait ? Voilà.
Enfin, bon, du Arcudi, moi je suis toujours client d'au moins essayer pour voir parce que ça doit... c'est toujours un peu dingue.
Arcudi, on ne sait pas exactement où il va nous mener. Pour avoir lu en plus les premiers Men of War, j'ai trouvé l'histoire de fin qui était dessinée dedans par Phil Winslet meilleure que l'histoire principale.
Oh, mais ça arrive souvent. Ça
arrive souvent. Elle n'avait pas de prétention à constituer quelque chose, et du coup, il y avait une vraie histoire avec une forme de chute, et surtout, qui finalement n'était pas patriotique.
Mais et ça c'est...
sur un titre de guerre, c'est quelque chose d'important.
Mais Man of War avait de très bonnes critiques, surtout en Angleterre. J'ai vu ça sur les sites de critiques anglais, ils étaient assez... Je vais pas dire extatique, mais le titre avait de bonnes critiques.
J'ai eu un peu plus de mal personnellement à rentrer dedans, mais je comprends qu'on puisse aimer parce que techniquement c'était très beau, les couvertures étaient magnifiques.
Oui, mais j'apprécie cette initiative qui au moins montre que le comics, c'est même que DC peut faire autre chose que du super-héros. Et ils ont eu John Hex et la All-Star Western maintenant, qui continue le western, le style western, là refaire un peu de guerre et tout. Essayer de varier les genres, c'est plutôt pas mal, ça peut attirer un autre public.
Et All-Star Western qui continue.
Qui continue.
Et ça, c'est plutôt...
Je pense que Gray et Palmiotti ont signé un pacte avec le diable, avec leur sang, pour que le titre continue ad vitam aeternam.
C'est quand même énorme, parce qu'ils ont duré 60 numéros d'une série dont on ne croyait pas qu'elle allait durer, même s'il y avait le film.
Oui, surtout, et quand tout le monde a vu le film, tout le monde a fait « Ah, et ça a continué quand même
!» Ou alors elle fait, mais il sort quand le film? Ça y est, il est sorti, on l'a déjà tous oublié. C'était pas quand même la réussite du siècle.
Non.
C'est distrayant, c'est drôle, mais c'est pas bon. Donc.
On pourrait associer ça peut-être à un Ghost Rider, un peu dans le. C'est moins kitsch, mais ça reste distrayant aussi, quoi. Ça reste un peu con-con.
Ghost Rider était mieux écrit.
Ah oui, ce qui veut dire beaucoup, quand même.
Parce que c'est quand même un film très 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 mal écrit.
Oui. Mmh.
C'est pas mal joué, c'est pas mal réalisé, c'est juste très très mal écrit. Donc à partir de là, on oublie tout le reste. Il reste donc deux titres qui sont annoncés. On va commencer par un qui est surprenant par les auteurs, qui est The Ravagers. Alors, qui en fait va être lié à tous les titres écrits par Lobdell.
Voilà, donc tous les titres un peu teen, ado.
Sur Superboy et Teen Titans en tête.
Red Hood un peu moins.
Enfin, pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé de Red Hood qui peut laisser à penser que ça va avoir un impact. Mais alors, on n'a vu aucune image de Ravagers, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Sauf qu'on sait un peu que Kathleen Fairchild était déjà dans Superboy. Voilà. Que dans le numéro 8, le même mois. Arrive Grunge.
Donc on peut se dire que décemment...
Voilà. Il y avait Rose Wilson qui était également dans la série Superboy et qui s'appelle Ravager. Donc, à mon avis, parti comme c'est, et vu le changement de caractère un peu qu'ils ont imposé à Kathleen Fairchild, je m'attends à voir une série de Gen 13 dirigée par Ravager.
Ah oui, non, mais c'est pour tout le monde, c'est même plus qu'une hypothèse.
Là où ça choque un peu, c'est les auteurs, donc. Owen McKee au scénario. La résurrection du mec que tout le monde croyait mort.
Mais il est encore là, lui.
Et ouais, non, mais le mec qui s'est fait totalement oublier après avoir écrit énormément dans les années 90 parmi les plus mauvais scénarios que nous ait jamais proposé Marvel.
Il y avait des bons trucs quand même. Il a fait énormément de scripts alimentaires, c'est vrai, mais il a pu sortir de bonnes choses.
Alors, il y a aussi une fois où il a raconté qu'un jour, il a été pour voir son éditeur en lui disant « Là, ça fait des mois que j'écris Spider-Man. Je sature un peu, je sais plus quoi écrire. Je vois plus, je suis plus. Et fait ouais, c'est un peu dommage parce que tu vas reprendre en plus l'écriture du deuxième mensuel. Et quand on vient voir son éditeur en disant je sais plus quoi raconter sur un titre et qu'on te dit tu vas en prendre deux, évidemment.
C'est voilà, donc la faute n'en est peut-être pas entièrement à ce pauvre Howard, mais c'est c'est la résurrection en tout cas du Marvel des années 90 avec Bob Arras qui est revenu, qui a ramené Lobdell. Qui ramène
Nicieza. A noter aussi quand même qu'il a réussi à faire la série la plus longue sur l'histoire de Ghost Rider, 92 numéros. On pense bien qu'il avait écrit au moins jusqu'au 100. En tout cas, ça c'est sur les premiers éléments. A noter quand même sur cette série, Ian Churchill au dessin.
Oui, alors quel style va-t-il avoir?
Bonne question.
Est-ce que ce sera son style de Marine Man, ou même s'il a un peu quand même, même son style super-héros a un peu bougé pour être quelque chose de plus cartoony, ça reste une sorte de mix entre ce qu'il faisait dans les années 90 et ce qu'il a fait sur Marine Man qui est complètement cartoon. Ouais. Qui est pas mauvais, hein, qui est franchement, je trouve pas
et
mal. Hein.
À la fois, comme il fait un spin-off de la série Superboy, et vu les dessins sur Superboy, son style cartoony correspondrait très bien.
Oui, il ne dérangerait pas. Ouais.
Donc, pourquoi pas, on va voir la manière dont ils nous le mettent en place. Moi, je suis assez optimiste sur ce titre, que je pense que je vais faire de toute façon, parce que je faisais les séries qui étaient
oui,
à la base.
Oui, qui étaient liées, donc...
On attend de voir la suite. Un dernier titre, Diala Edge. La série d'origine s'appelait Diala Edge for Hero. Mm-hmm. Le dernier relaunch qui était par Will Pfeiffer, qui était excellent, s'appelait Hero tout court. Eh bien là, ça s'appelle Diala Edge tout court.
Oui, mais c'est...
Alors,
pourquoi pas reprendre le concept hein. Après, c'est le problème, c'est qu'on peut faire une anthologie, un truc à fil rouge, on peut tout faire avec le concept.
Et c'est un peu l'intérêt, c'est d'avoir des personnages, un cadran qui donne des pouvoirs, d'un cadran téléphonique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est à l'époque où on tournait sur les téléphones avant d'appuyer sur les touches.
Ça y est, des trucs en bac élite avec lesquels on peut assommer quelqu'un dans les films.
Ouais, entre autres. Essaye avec ton smartphone, ça le fait moins.
Mais j'ai pété mon iPhone et le mec est toujours debout. Oh.
Et donc aussi surprise sur les auteurs. Alors les couvertures sont de Brian Bolland. Le dessinateur, son nom est en train de m'échapper actuellement. C'est un dessinateur qui a travaillé notamment sur Tortue Ninja pour IDW. Sur le dernier relaunch, qui est vraiment un petit nouveau dans le métier. Et alors le scénariste, qui lui n'a fait rien dans les, au niveau comics, c'est, enfin si, il a fait des comics, ils sont pas sortis.
Voilà.
Mais c'est donc Shina Mieville. Alors qui est
romancier que je n'ai jamais lu pour ma part, donc je ne vais pas.
Voilà. Car, tu vois la photo, tu fais oh Morrison a mis des boucles d'oreilles.
Oh bah c'est aussi ce qu'on disait de sans les boucles d'oreilles mais de Brian Vaughan quand il a commencé. Quand tu vois sa photo les premières années chauve en costume avec un regard un peu intense, tu fais mais il a changé de nationalité Morrison? Il a plus un accent à la con?
Non mais c'est vrai que là-dessus c'est un peu étonnant quand même de voir un nom comme ça débarquer.
Mais il a essayé plusieurs fois, il racontait qu'il avait fait un pitch et même scripté plusieurs épisodes de Swamp Thing qui avaient été au final refusés parce que l'approche était trop politique.
D'accord. Bon,
Donc il a dit j'en tiens aucun grief parce qu'on m'a dit clairement pourquoi c'était ça et puis moi j'avais pas envie de faire autre chose donc voilà, c'est quitté en bon terme quoi.
Ouais, surtout que bon, pour qu'on lui dise ça chez Vertigo.
Ça devait être coton quand
ça
même.
Devait être très politique.
Ouais, il avait dû. Mais c'était. Enfin, il racontait que c'était un moment où il était vraiment très très énervé, qu'il avait besoin de dire des choses et qu'il voulait servir de Swamp Thing comme véhicule et que. Bah, bon, ça n'a pas trop plu à l'époque.
Très bien. Donc là, on en est donc à 6 titres qui se lancent. Alors, sur ceux qui s'arrêtent, on a déjà parlé de Mac, de Manafort. Alors, quels sont les autres? Eh bien, il y a d'abord les titres qui ont le plus fait rire. Hein, les deux que tout le monde a décriés où je n'ai vu aucune critique positive. Mister Terrific et Static Shock.
Bah, Static Shock, déjà, il y a eu deux problèmes. Il y a eu le départ du scénariste et il y a eu ensuite Jonathan Glapion qui, au départ, ancrait et qui a dit « Je me barre parce que Batman de Capullo me prend trop de temps et j'ai envie vraiment de le fignoler. » Donc, on reprend Andy Owens. Et bon, c'est un peu le couple de paresseux quand ils s'y mettent tous les deux, McDaniel et Owens. Ils sont pas mauvais, mais ils auraient besoin d'un coup de fouet tous les deux.
Après, McDaniel est un dessinateur qui peut avoir un style, mais c'est vrai que ces dernières années, il s'est...
Il s'est affadi, il a plus le feu sacré, on a l'impression.
Faudrait, pour ceux qui ont l'occasion de lire les premiers épisodes avant ça, les Nightwing étaient très bons. Mais quand il a pris Daredevil, pas quand il l'a pris, parce qu'au départ il imitait les Wicks, mais quand il s'est mis à imiter Miller sur le Tree of Knowledge, qui s'appelait Renaissance, en top BD à l'époque.
Avec le costume gris, là.
Le costume gris. C'était du Sin City, mais en couleur. C'était pas forcément très lisible à cause de la mise en couleur. Je pense que ça aurait été beaucoup plus joli en noir et blanc. Mais il y avait quand même une puissance et quelque chose en dessin qui s'est assagi et qui est devenu beaucoup plus lisible par la suite. Mais c'est vrai que sur ces dernières années, il est parti un peu en roue libre. Enfin.
Et puis bon, DC l'a utilisé pas mal comme mec de la dernière minute. Tiens, on a trois scripts à faire là, c'est vachement la bourre, vas-y.
C'était le running d'ici, hein.
C'est un peu un Stakhanovis, donc il arrivait à sortir les épisodes, mais enfin il fallait voir les épisodes. Par exemple, c'est Batman et Robin avec Cornell. Déjà, Cornell s'était pas vraiment foulé sur le scénar, mais alors...
Bon, je crois qu'il a pas eu le temps d'y réfléchir au scénar. Hein. C'était tout nous pour un truc, je veux le premier épisode sur mon bureau ce soir. Hein.
Oui, c'était un peu ça. Donc, et c'est vrai que bon, derrière, McDaniel non plus, c'était pas cassé la tête, donc bon, enfin voilà. Donc Static Shock qui effectivement passe pas la barre, alors bon, c'est un peu le dernier représentant Milestone, mais si vous voulez le sauver, fallait peut-être faire quelque chose. Et ensuite Mr. Terrific, bah, qui est, j'ai l'impression qu'ils l'ont presque prévu comme une mini, parce que derrière t'as toute la JSA qui arrive, et en plus c'est vrai que les critiques étaient franchement mauvaises. Je l'ai pas lu, hein, mais ça n'avait pas l'air très très bon.
Ils attendent encore que je les lise, et puis là je me dis que je vais peut-être attendre d'avoir le 8 pour les lire, pour me les infliger d'une seule traite.
Parce qu'en plus ils ont changé de dessinateur aussi en cours de route, il me semble.
Alors, le gros hic quand même, alors ils ont changé de dessinateur, oui, trois fois en trois sur les trois premiers numéros, ils ont annoncé trois dessinateurs différents, puisque au départ, le dessinateur est parti, je ne sais même plus qui c'était.
J'ai cru que t'allais dire il est parti pisser, en fait.
Non, mais il est parti, en fait, il n'a même pas fait le numéro 1.
Oui, donc, il n'a pas eu le temps. Oui.
Voilà, il avait un dessinateur donc qu'il a remplacé à la va-vite sur les 1 et 2. Et au 3, il y a un dessinateur régulier.
Qui n'a pas l'air spécialement mauvais d'après ce que j'en ai vu, mais bon, qui n'est pas non plus, qui n'a pas l'air d'un génie. Voilà. Quoi.
Donc ça, c'est un peu le gros échec quand même. Ce qui fait, par contre, beaucoup parler, la représentation des femmes revient. On l'a dit, hein, on voulait des femmes chez DC. Là, les gens de couleur, Omak, Static Shock et Mr. Terrific, c'est trois séries sur des personnages de couleur.
Sur des blacks, c'est vrai.
Et là, ça fait un peu réagir. Bon, on va attendre de voir, hein, le preview n'est pas encore sorti exactement, et la manière dont ça va se mettre en place, notamment sur les...
Peut-être aussi pour ça qu'ils ont gardé Batwing.
C'est une possibilité, mais à la limite, pourquoi avoir supprimé Batwing et pas avoir gardé Omak? Parce que le fait de supprimer Batwing pour mettre Batman Incorporated aurait semblé tout à fait logique.
Oui, mais bon, c'est des fois les commerciaux, les gens du marketing n'ont pas la même logique que les lecteurs.
Ouais, et puis il y a deux autres titres qui s'arrêtent. Black Hawks, là aussi,
autre titre de guerre, donc c'est un peu dommage.
Autre titre de guerre qui reluquait plus sur le G.I. Joe que sur le vrai titre de guerre.
Série d'action, dirons-nous.
Là aussi, problème de dessinateur qui est parti avant le numéro 1.
Oui, qui avait donné ses raisons d'ailleurs, Lashley.
Ken Lashley, en fait, tout simplement, avait expliqué qu'il refaisait comics parce que ça lui faisait vachement plaisir. D'ailleurs, quand il l'annonçait sur Facebook, il fait « J'en passe pour d'ici !» Il avait spoilé le truc, alors personne ne savait ce qu'il faisait. Il a lancé l'info avant même qu'on sache qu'il allait avoir un reboot.
Oui.
Voilà. Donc, et juste au bout d'un moment, on lui a annoncé que le scénariste, on l'a viré, on en a pris un autre, faut tout recommencer, c'est plus les mêmes histoires. Et il leur a fait, je vous ai quand même prévenu avant que c'était un boulot à côté que je faisais pour me faire plaisir, mais que j'ai des obligations par ailleurs. Et du coup, il n'a pas pu continuer à faire la série, c'est pourquoi il n'en fait aujourd'hui que les couvertures. Donc, Black Hawk s'arrête au 8. Et enfin, Hawk and Dove. Et là, Hawk and Dove qui s'arrête. La série donc écrite et dessinée par Rob Liefeld.
Ah, qui était au départ écrite par Sterling.
Stan Getz. Et qui. Ils étaient co-écrivaient, je crois.
Alors, Getz au départ a dû écrire les deux premiers numéros tout seul. Ensuite, Liefeld co-écrivait. Ensuite, Liefeld a pris la totale.
Autant dire que Sterling Gates est parti après le numéro 2, que Liefeld a continué à illustrer ses plots et a fait les plots lui-même sur la fin.
Exactement.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fallait bien réoccuper Liefeld.
C'est un homme qui a beaucoup d'énergie. On peut dire ce qu'on en veut, mais le Liefeld, il a une énergie débordante.
Et alors là, tout de suite, on voit qu'il ressort d'un nez de vache maigre. Il relance tout son univers de comics avec d'autres auteurs. Il fait la série Infinite avec Kirkman, qui continue à dessiner.
Oui, mais enfin, on n'a pas eu de sollicitation depuis de 3 mois.
Il y en a ce mois-ci.
Ah d'accord.
Je pense qu'aussi, c'est pour ça qu'il va se concentrer sur le scénario. Mais là, il reprend le scénario de 3 séries.
Alors, avec 2 co-scénaristes d'après Didio, dont on ne connaît pas encore les noms.
Donc, et on ne sait pas sur quelle série.
Oui, on ne sait pas sur quelle série.
Alors, il va reprendre
Deathstroke,
dont il fait aussi des couvertures.
Exact.
Il va reprendre
Grifter,
où Will Monson va passer sur un autre projet.
Voilà. Bon.
Mmh. Bon. En même temps, j'avais acheté la série uniquement pour Edmondson, et là, j'étais pas spécialement persuadé.
Voilà, moi aussi je l'avais prise, et les premiers numéros m'ont pas ravi, donc je pense que ça va être effectivement le premier qui va passer à la trappe.
Et puis, c'est un peu le gros problème, c'est qu'on est dans une action non-stop depuis numéro 1.
Oui, il n'y a pas de développement de... Enfin,
Il n'y a pas de personnalité. C'est-à-dire que...
Oui, et puis le personnage ne s'arrête pas et se dit « Attendez, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Machin, il y a...
Et puis, il n'y a pas de background, en fait. Parce qu'il est toujours en train de courir.
Mais c'est pareil. On en a fait un vrai grifter, un vrai arnaqueur, mais c'est simplement évoqué. On n'en a aucune...
Non, parce que ça s'est passé avant.
Ouais, voilà. C'est dans les numéros qui n'ont pas été publiés. Oui, d'accord.
Et voilà. Alors après, on nous annonce depuis un certain temps donc qu'il y aura des numéros zéro. Alors qui serait une forme visiblement d'event annuel. Avec des numéros qui expliqueraient notamment les ponts entre les précédentes incarnations et les incarnations actuelles.
Ou j'espère qu'ils ont mis des bons techniciens. Le faut que le scénar il soit béton quand même.
Il y a des titres où ça va être relativement facile.
Oui.
Parce que sur Green Lantern, on se demande ce qu'ils vont pouvoir raconter.
Pendant ce temps-là.
Sur d'autres titres, je pense qu'on va vraiment souffrir parce que.
Ah bah faut que le truc soit costaud quoi, mais costaud chez costaud. Parce que voilà. Là effectivement, là il risque de se prendre une volée de bois vert. Donc, si les trucs sont. Ils auraient pu le laisser dans le non-dit. Sans ouais. que ça pose problème, le raconter, ça peut Alors, vraiment...
Il y a les titres où il y a quand même besoin de raconter.
Oui, je suis d'accord.
Mais, bon, après un Superboy, un Supergirl, il n'y a rien à raconter, en fait.
Non, il n'y a rien à dire.
C'est les nouvelles incarnations, ils n'ont rien à voir avec les précédents.
Mmh.
Sur Teen Titans, à faire ce bléto.
Ouais, là, il faudrait carrément faire une mini pour...
Sur Red Wall and the Outlaws, va falloir se lever très tôt, puisqu'on sait que Starfire ne se rappelle pas et qu'Arsenal se rappelle.
Enfin, il y a des... Bon, alors, ça a été fait dès le départ, comme ça, donc on peut espérer que le mec a un plan, quoi, qu'il fait pas ça juste pour la forme.
Globalement, je suis assez confiant sur Lobel dans les trois titres qu'il écrit. Il est parti sur des incarnations très différentes, mais justement, ce genre d'allusion laisse à penser qu'il sait où il va. En plus, il prend quand même des risques en réintroduisant des personnages secondaires comme il l'a fait. Parce qu'évidemment, réintroduire Ravager, réintroduire Fairchild dans Superboy, soit il sait ce qu'il fait, soit il est totalement inconscient.
Oui, bon, et puis pour avoir donc vu le bonhomme sévir dans les années 90, on peut aimer ou pas, mais généralement, il a une direction. On peut ne pas l'aimer, mais... Il a un plan.
Très clair. Là-dessus, personne ne dira le contraire. Donc, moi, c'est vrai que là-dessus, je suis très, très optimiste. Et je suis complètement pour. On va avoir donc d'autres éléments où on va le retrouver. Savage Hawkman, par exemple. Savage Hawkman avec Robbie Fell.
Et Joe Bennett au dessin.
Savage Hawkman, c'est un plantage. C'est tout ça pour ça.
Bah c'est surtout bon Tony Daniel au scénar je veux bien quoi mais je veux pas en fait.
Ouais, je pense que ça résume assez bien les choses. En plus, l'idée vachement originale de nous faire un Hawkman qui maintenant a les ailes intégrées et qui les fait pousser tout seul, c'est exactement ce que Bill Messner-Lobbs nous avait fait à l'époque de Zero Hour. Et Bill Messner-Lobbs en plus avait fait une très bonne histoire. Les épisodes, l'arc de Zero Hour sur Hawkman est excellent. Sa redéfinition du personnage est très intéressante. Il en fait un équivalent des Mailman pour les animaux aériens.
Mmh.
Il fusionne Carter Hall et Carter Hall.
Mmh.
Et voilà. Et en fait, il fait cet avatar de tous les Hawkmen de de l'histoire et des différentes réalités, qui devient un avatar du genre animaux volants, oiseaux. Et ça, je trouvais que c'était vraiment très bien fait. Il y avait un peu de frustration parce que derrière, il n'a pas pu l'exploiter. Il n'a pas vraiment eu le développement à la Vertigo qu'on pouvait s'attendre dessus. Peut-être aussi qu'à l'époque, ce n'est pas la direction que voulait DC. Ouais. Surtout qu'il était quand même intégré à la Justice League. Il faisait partie de Justice League. Donc, ça peut expliquer que Mr. Lobs n'ait pas été jusqu'au bout du concept qu'il avait lancé. Et puis le troisième titre, c'est donc Deathstroke. Et bon, Deathstroke, c'est un titre pure action. Là, on est dans le même cas que Grifter.
Bah, quand on a des couvertures de Bisley, j'ai envie de dire qu'on fait pas. On n'a pas envie de faire dans la légèreté.
Ah. Moi, après les couvertures de Bisley, c'est probablement ce qui m'a fait ne pas l'acheter.
Ah ouais.
Parce que j'aime bien Bisley en tant qu'illustrateur, mais sa version vraiment too much du personnage.
Enfin, on le met sur un perso comme ça, il fallait s'attendre à un truc pareil quand même.
Mais oui, mais enfin, après, je pense qu'il y a erreur de casting en mettant Bisley sur les couvertures du titre. Mais, à la limite, on m'aurait mis un Bisley sur les couvertures de Deadman.
Ah oui, ça aurait pu être pas mal, effectivement. J'y avais pas pensé, mais oui.
Ça m'aurait... voilà. Il aurait fait un mec décharné, ça lui aurait plu, on aurait vu les côtes... Il aurait aimé. Mais là, je trouvais que c'était pas forcément le truc. Et en plus, ça correspond pas du tout au dessin intérieur.
C'est vrai. Bah, Bisley, que... Joe Bennett, chercher le rapport.
Et en plus, je trouve que Joe Bennett fait un travail très honnête dessus.
Oui, ça a toujours été un dessinateur plutôt honnête.
Voilà. Donc globalement, un peu de déception sur le choix qui a été fait. Mais bon, il faut assumer dans ces cas-là les décisions prises.